من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب، donc aujourd'hui, ce matin, un nouveau cours sur notre matière, le fiqh. Le fiqh, la jurisprudence dans les adorations. Alors, on vous fait prêter attention. On vous fait prêter attention sur le terme fiqh, comme quoi ce terme il est général. Il peut vouloir dire autre chose que ce que nous on étudie ici. C'est pour ça qu'on précise, c'est pour cela qu'on précise pour débutants, quand on va commencer à étudier le fiqh, on leur précise que c'est la jurisprudence des adorations. Parce que le fiqh, dans la langue arabe, c'est la compréhension. On l'a vu dans le cours précédent. Dans la langue arabe, le fiqh, c'est la compréhension. Également, il y a des savants qui utilisent le terme fiqh, c'est-à-dire le fiqh al-akbar, pour désigner le tawhid, la aqida. Et le fiqh al-asrar, la petite jurisprudence qui est dérivée du tawhid, ce que nous, on étudie dans cette matière, à savoir la jurisprudence dans les adorations. Donc, dans le cours précédent, on était entré dans notre ouvrage ici, qui s'intitule Al-Madkhal Lidirasat il-fiqh, c'est-à-dire l'entrée dans l'apprentissage du fiqh, l'entrée dans l'apprentissage du fiqh. On avait expliqué qu'avant de prendre un livre dans le fiqh, un ouvrage, et de l'étudier directement, c'est-à-dire quand on parle d'ouvrage dans le fiqh, un ouvrage où on va traiter les différentes adorations, la purification, la prière, tout ce qui va, l'eau, les récipients. Ça, c'est dans le chapitre de la purification, etc., etc. La prière, le hajj, naam, la zakat, tout ce qui est le fiqh. Avant d'entrer dans le sujet du fiqh, on doit connaître certaines choses qui sont partie intégrante du fiqh. C'est plus convenable si on veut faire les choses dans l'ordre et correctement, pour avoir un enseignement convenable. Je vous donne un exemple. On vous donne un exemple. Quelqu'un qui aura étudié un ouvrage dans le fiqh, un ou plusieurs ouvrages, directement, hein, Bulugh al-Maram, Umdat al-Ahkam, Zad al-Mustaqni', etc., etc. On lui posera une question, on ne sait pas, quelqu'un arrive comme ça et lui pose une question, ou quelques questions, quelqu'un qui s'intéresse au firq et qui te demande c'est quoi la définition du firq? Ça veut dire quoi le mot firq dans la langue arabe? C'est quoi la définition? Tu peux m'expliquer la définition du firq? Tu peux me dire à quelle époque est arrivé le firq? Est-ce qu'il existait déjà à l'époque pré-islamique le firq ou est-ce qu'il est arrivé avec l'islam? Tu peux me dire quelles sont les différentes étapes d'évolution du firq? Ou est-ce qu'il y a eu une seule étape? Tu peux m'aiguiller sur certains ouvrages de référence dans le firq? Tout ça, ce sont des questions qu'on va étudier dans cette entrée dans l'apprentissage du firq. Naham, parce que si on ne connaît pas ces choses-là, on peut appeler ça un manque. Un manque. Donc voilà pourquoi, si on se pose la question, pourquoi on n'est pas entré directement dans un ouvrage de firq? C'est parce qu'avant d'entrer dans un ouvrage de firq, on doit apprendre certaines choses qui font partie intégrante du firq et qui sont importantes et qu'on ne va pas forcément étudier dans un ouvrage de firq. Donc l'enseignement académique, dans l'enseignement académique, on apprend ces choses-là dès le début dans l'enseignement, dans la matière du firq. Pour vous dire, le manuel qu'on a ici comme étude dans l'entrée du firq, c'est un manuel qui est enseigné à l'université de Médine. C'est un manuel qui est enseigné à l'université de Médine. Alors, comme on l'a déjà dit dans la classe, la première classe, il faut savoir que l'enseignement qui est proposé à l'Institut de Tawhid, At-Tawhid, c'est un enseignement équivalent à l'enseignement en arabe. À la seule différence, c'est que c'est en français. On a souhaité la méthodologie, la tariqa, le chemin qui est employé à l'Institut de Tawhid, c'est de prendre un véritable enseignement académique ou, comme c'est enseigné dans les instituts, de prendre cet enseignement et de le transformer en enseignement en langue française. Naham. Donc voilà, c'est profitable. La seule différence, c'est que c'est en langue française. Donc ça pourra aider beaucoup de gens. Ça pourra aider beaucoup de gens, Naham. C'est-à-dire, on vous propose un enseignement qui normalement est accessible que pour les arabophones. Et on vous transmet cet enseignement en langue française. Naam. Taïb. L'enseignement dans les instituts ou bien des ulama, des savants. Quand on dit institut, ce sont les instituts des savants. Naam. Donc dans le cours précédent également, on avait commencé à expliquer la définition du firq. Vous savez que chaque question religieuse a une définition, est censée avoir une définition. Alors qu'est-ce qu'une définition? C'est important de savoir qu'est-ce qu'une définition et l'importance d'une définition. Attention, c'est très 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 important une définition. Une définition, c'est quelque chose qui vient en quelques mots, en une phrase, te définir La question religieuse. On va vous donner des exemples. Et pourquoi c'est important? Très 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 important, parce que si tu ne connais pas une chose avec sa définition, tu auras l'éclaircissement de l'aspect de cette chose. Cette chose, elle te sera éclaircie de par sa définition. Donc une définition, c'est très important. Naham. Par exemple, on vous prend des exemples. Définition du tawhid. Définition du tawhid. Quelqu'un, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le tawhid. C'est quoi le tawhid? Et toi, tu connais la définition, mais t'es pas t'es pas quelqu'un qui est spécialiste ou forcément apte à expliquer les choses, mais tu connais la définition. Et ben, en lui mentionnant la définition, tu vas lui mentionner la définition normalement, et même à partir de cette définition, tu auras moins de difficultés, tu auras plus de facilité à expliquer la chose. On va prendre le tawhid. Quelqu'un, il te demande, ça veut dire quoi le tawhid? Qu'est-ce que c'est le tawhid? Toi, tu es un peu perturbé, tu dis comment je vais lui expliquer c'est quoi le tawhid, etc. Pour qu'il comprenne bien et en quelques mots. Tu te souviens de la définition du tawhid? Le tawhid, bon, il y en a plusieurs hein, définitions du tawhid, on va en prendre une. Ifradullah bima yahtasubi. C'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre, particulier. Tu lui dis ça, c'est une définition du tawhid. Et ensuite, tu commences à développer à partir de cette définition. Tu peux dire aussi comme autre définition, Ifradullah bima lahu min rububiyatihi wa asma wa sifatihi wa uluhiyatihi. C'est aussi le fait d'unifier Allah dans ce qu'il a de dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, dans sa divinité. Ou dans sa divinité, ses noms et attributs. Donc, voilà l'importance. Après, à partir de cette définition, après, à partir de cette définition, on peut, à partir de cette définition, tu pourras argumenter. À partir de cette définition, tu pourras argumenter, Inch'Allah Ta'ala. Donc, la définition du firqa. Alors, on devait vous donner d'autres exemples, c'est vrai. Par exemple, la prière. Si tu ne sais pas, quelqu'un te demande c'est quoi la prière? Ça sert à quoi? C'est quoi la prière? Si tu connais la définition, tu peux partir, tu peux commencer ton explication à partir de la définition. Ce sont, par exemple, la prière, ce sont un ensemble d'œuvres, d'actions ou de mouvements qui sont faites à un moment précis, à un moment précis, en adoration pour Allah, et ça commence par le Takbirat al-Ihram, lorsqu'on dit Allahu Akbar, et ça se termine par le Taslim, le Salam. Si on connaît la définition, on cite la définition, et à partir de la définition, on fait une explication. Voilà pourquoi c'est très 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 important de connaître la définition de quelque chose. Et c'est pour ça que les savants donnent les définitions. C'est pour cela que les savants donnent les définitions. Et on a déjà expliqué pourquoi les savants donnent le sens en arabe d'une chose à chaque fois. C'est parce que le sens en arabe, il est également important, car il y a beaucoup de gens qui se servent de la langue arabe pour détourner les questions religieuses. Beaucoup de gens se servent, des gens mal intentionnés, hein, se servent de la langue arabe pour détourner énormément de questions religieuses. Donc si on ne connaît pas, les gens de la sunna ne connaissent pas le sens en arabe, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Les ambiguïtés entreront dans les cœurs et c'est terminé. Taïb, définition du fiqh dans la législation. Alors, au début de l'islam, il y avait une définition du fiqh. Au début de l'islam, cette définition, c'est l'ensemble des jugements légiférés dans la religion. C'est un ensemble, une réunion de jugements légiférés dans la religion. Alors n'oubliez pas que le fiqh, c'est dans la religion, hein. Ce sont des jugements, de la jurisprudence dans la religion. Taïb, quand on parle de fiqh, c'est dans la religion. Si quelqu'un vient et vous parle de fiqh hors religion, faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Puis après, avec le temps, le temps qui a passé, les siècles, la compilation du fiqh, hein, par les imams mujtahidin. Mujtahid, c'est le plus haut niveau degré, hein. C'est le plus haut, pardon, degré. Le juriste, celui qui a la capacité à faire l'effort d'interprétation, tous ces grands imams, ils ont mis en place une définition du fiqh. Taïb. Et c'est celle-ci que nous allons vous transmettre et expliquer, inshallah ta'ala. Alors, je vous donne une technique d'apprentissage. Une technique d'apprentissage. Nous, comme vous le savez, on n'a aucun souci à répondre aux questions. Alhamdulillah, vous pouvez poser toutes vos questions, surtout concernant les cours. Mais il y a une technique. Il y a une technique d'apprentissage. Quand on n'a pas compris quelque chose du premier coup, il faut revenir plusieurs fois dessus. Réécouter, relire, en méditant, en cherchant à comprendre. C'est pas parce que tu n'as pas compris une question religieuse ou quelque chose dans l'ilm du premier coup que c'est la fin du monde. L'étudiant, le véritable étudiant, c'est celui qui s'accroche et qui persiste à chercher à comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui comprend une question religieuse du premier coup comme ça, c'est bon, j'ai compris. Quand on n'a pas compris, on a le choix de poser les questions ou bien on a le choix soi-même de persévérer dans la méditation et la compréhension. Nous-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, ça peut nous arriver. Des questions religieuses, on bloque dessus parce que le talab al-ilm, c'est pas fini, hein. Talib al-ilm, comme l'a dit l'imam, il me semble que c'est l'imam Ahmed, c'est jusqu'à la tombe. Donc vous en doutez bien, jusqu'à aujourd'hui, on apprend, et il y a des fois des questions sur lesquelles on bute, on n'abandonne pas. On cherche, on fait des recherches, on réécoute, on réécoute, on revient sur l'explication jusqu'à ce qu'on ait compris. Le but, c'est d'insister jusqu'à ce que tu aies compris. Tu ne dois pas lâcher et dire, bon, ça, j'ai pas compris, c'est pas grave, je passe à autre chose. Non. Non, non, non. Le vrai étudiant, on parle du vrai étudiant. Le vrai étudiant, il doit essayer d'insister jusqu'à comprendre. Non. Parce que si tu fais ça, si tu prends cette règle, c'est pas grave, j'ai pas compris ça, je passe à autre chose. Tu peux le faire dans un cas de force majeure, tu peux le faire. Mais pas tout le temps. Si tu en fais une habitude, eh ben combien de questions religieuses tu vas passer dessus? Et à la fin, tu seras un étudiant avec des gros manques. Naham. Donc attention à ça. Donc la définition, après un temps qui est passé, l'apparition des grands imams, de la compilation du fiqh, les savants ont mis en place une définition du fiqh. Cette définition, on va, inshallah ta'ala, vous la citer. Le fiqh, c'est al-ilm bil ahkam shar'iyyatil عملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Le fiqh, c'est la connaissance des jugements légiférés pratiqués, tirés des preuves détaillées. On va répéter, je vais d'ailleurs le noter ici en français. Alors vous inquiétez pas, cette définition à la suite, elle est décortiquée. Chaque mot, on va l'expliquer. Chaque mot, on va l'expliquer. Alors on a dit, c'est la connaissance ou la science. Hein. La science, connaissance. Des jugements. Des jugements légiférés, légiférés, pratiqués, c'est-à-dire dans les œuvres, tirés, pris, hein, tirés, pris des preuves. Détaillé. Voilà. Je l'ai noté. Si un jour, Inch'Allah ou Ta'ala, on ouvre une troisième classe, on aura noté cette définition en français. Elle sera déjà notée. Taïb. Alors. Qu'est-ce qui est voulu? Alors maintenant, on prend cette définition. Hein. On prend cette définition et on va la prendre mot à mot pour l'expliquer. On a dit la science, la connaissance des jugements légiférés, pratiqués, tirés des preuves détaillées. La science, la connaissance. Alors, dès le début, dans votre apprentissage en tant que débutant, des sciences religieuses, Ça, c'est très, très, très important. Et c'est bien qu'on le fasse dans la matière du fiqh. Parce que ça se fera dans le comportement, ça se fera dans le tawhid, etc. C'est-à-dire ce que le terme science, le terme ilm, le terme connaissance, il est valable dans toutes les matières, il faut le connaître ce que ça veut dire. La connaissance, la science, c'est quoi? Les savants disent c'est la perception. Al-ilm ou al-idrak. La perception. Al-ilm huwa idrak shay'in ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Retenez bien ça. Définition du ilm. Définition de la connaissance. C'est quoi l'ilm? C'est la perception de quelque chose comme il est en réalité. Définition de la science. C'est la perception de quelque chose comme elle est en réalité. On va vous donner un exemple. Alors j'ai pris le premier exemple que j'ai devant moi. J'ai une brosse. J'ai une brosse ici. Une brosse. Au premier abord, quand je vois cette brosse, si je dis c'est un appareil, un ustensile pour faire des choses, j'aurai une perception erronée. Si au premier abord, quand je vois cette brosse et je dis c'est une brosse, ça c'est une brosse composée de petits pics pour brosser. Là, j'aurai une connaissance. Cette connaissance, c'est la perception de la chose comme elle l'est réellement. J'ai perçu là la brosse dans son état réel. C'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm, la connaissance. C'est de percevoir une chose comme elle l'est réellement. Donc, une petite faïda au passage. Là, c'est pas dans notre sujet. Ça pourrait l'être, hein. Ce n'est pas directement dans notre sujet, mais une faïda au passage. Si on perçoit quelque chose autrement que sa réalité, on ne dira pas que c'est une connaissance. Là, on utilisera un autre terme. Là, on utilisera un autre terme que la connaissance. Percevoir quelque chose autre que dans sa réalité, où elle est réellement. Ça, c'est une forme d'ignorance. Là, on ne va plus appeler ça de la connaissance, on va appeler ça de l'ignorance. Si vous voulez un petit détail sur ça, bien qu'on le fera, hein, on le fera dans le Tawhid, mais si quelqu'un il est pressé, il va avoir plus d'infos sur ça, vous allez dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, qui se trouve en français, hein, dans son explication des trois fondements, Thalathatul Usul. Et vous verrez, il explique la science et il explique l'ignorance. Définition de la science, définition de l'ignorance et les différentes catégories d'ignorance. Taïeb, vous pouvez aller dans cet ouvrage traduit en français. Vous allez trouver cela. Alors, on est toujours dans l'explication de la définition de la science, la connaissance. On a dit déjà. Pourquoi? Parce que c'est plutôt la définition du firqa. Et le premier mot dans la définition du firqa, c'est le ilm, la connaissance des jugements. Qu'est-ce que la connaissance? On a dit, on a transmis que la connaissance, La connaissance, c'est... Le ilm, c'est la perception de quelque chose dans son état réel. Alors, المقصود بالعلم هنا هو إدراك مطلقا الذي يتناول اليقين والظن. Donc, cette perception dans la connaissance, on perçoit quelque chose, c'est une perception avec de la certitude, hein. C'est une perception avec de la certitude, mais pas forcément dans le fiqh. Ça, on le verra plus tard. On nous dit que c'est une perception avec certitude, mais ça peut être conjecture aussi. Mais ça, on le verra plus tard. Ne prêtez pas attention à ça. Alors, pourquoi on nous dit? Parce que les preuves, les jugements, pardon, dans le fiqh, ils sont tirés ou bien de preuves incontournables, ou bien de preuves qui ne sont pas des preuves sûres. C'est-à-dire, ce sont des preuves où on pense. Le fiqh, c'est comme ça. Vous verrez, on le verra plus tard. Hein. C'est un peu technique pour des débutants comme ça. Mais on le verra plus tard. Dans le fiqh, il y a les preuves qui sont considérées comme incontournables. Qat'i. On appelle ça une preuve 100% incontournable. On ne peut pas dire c'est sûr, c'est pas sûr. Et il y a une autre forme de preuve, on appelle ça dhanni. Dalil dhanni. Ne vous inquiétez pas, ça, n'y prêtez pas attention. Ça viendra à la suite. Lorsque on sera plus expérimenté dans le fiqh, qu'on pourra parler de ces choses-là. Donc voilà, le début de cette définition, on nous dit al-ilm, la connaissance. Maintenant, on sait de quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire la connaissance. Hein? Deuxième terme de cette définition, la connaissance des jugements. C'est quoi les jugements? Qu'est-ce que les jugements? Alors, on nous dit. Alors, je répète, on est ici en train d'expliquer la définition du fiqh en détail. Hein? Qu'est-ce que les jugements? Al-ahkam. Al-ahkam en arabe, c'est le pluriel de hukma. Donc, les jugements au pluriel, on dit ahkam. Le jugement au singulier, on dit hukma. Taïeb. Les jugements, c'est ce qui est demandé dans la législation. Naam. Les jugements, écoutez bien. C'est le discours d'Allah, le Très-Haut, qui se rapporte aux actions des responsables. Écoutez bien, on va expliquer si vous avez compris cette phrase, vous avez compris ce que c'est qu'un jugement. On va vous expliquer, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Ça paraît technique, mais c'est juste technique dans les définitions, dans les expressions, mais dans le sens et la compréhension, c'est pas technique. Alhamdoulillah, vous allez voir. C'est quoi les jugements? Les jugements dans le fiqh, le jugement dans le fiqh, c'est le discours d'Allah, le Très-Haut, qui se rapporte aux actions des mukallifin, mukallafin, hein, mukallafin. Les mukallafines, c'est qui? Ce sont ceux à qui il incombe, ceux qui sont responsables et à qui ceux qui sont chargés de faire les adorations, la prière, la zakat, toutes les adorations. On appelle ça al-mukallafin. Au singulier, le mukallaf, c'est celui qui n'a pas d'empêchement. Il n'est pas fou, il dort pas. Il n'est pas enfant, ce n'est pas un enfant. Pour lui, c'est obligatoire. Pardon, c'est obligatoire. Il est chargé de faire les adorations. Alors écoutez maintenant. C'est le discours d'Allah, les jugements, le jugement. C'est le discours d'Allah au Ta'ala qui se rapporte aux actions du mukallaf, c'est-à-dire de celui qui est à charge, qui est responsable. Voilà. Donc c'est quoi en fait les jugements dans le fiqh? C'est le discours d'Allah, c'est-à-dire Allah, il a décrété est-ce que telle adoration est obligatoire, n'est pas obligatoire, c'est ça les jugements. Le jugement, c'est est-ce que telle adoration, elle est obligatoire, elle est préférable, elle est détestable, elle est interdite, elle est haram, elle est halal, elle est permise, elle est recommandée. C'est ça les jugements. Et ça, c'est Allah Ta'ala qui les a décrétés. Donc, je répète, le jugement, c'est le discours d'Allah, le Très-Haut, qui se rapporte aux actions des responsables. Je vais vous donner un exemple. La prière. On veut connaître le jugement, on veut faire le rapport entre le jugement qu'on est en train d'expliquer ici et la prière. D'accord. Le jugement de la prière, c'est Allah Ta'ala qui l'a fixé. On est d'accord? Donc ici, on nous dit, c'est le discours d'Allah Ta'ala le Très-Haut. Donc, c'est le discours d'Allah Ta'ala le Très-Haut quand il va fixer ce jugement. Il va dire, est-ce que la salat c'est obligatoire? Est-ce que la salat c'est pas obligatoire? Est-ce que la prière c'est interdit? C'est permis? C'est le discours d'Allah le Très-Haut. Ensuite, qui se rapporte aux actions des responsables, du responsable. Les actions, c'est quoi? Qui se rapporte aux actions. Donc, c'est le jugement d'Allah qui se rapporte aux actions. Quelles actions? Les adorations. Les adorations. Tout ce que vous connaissez comme adoration. Envers le responsable, on a expliqué le responsable. Le responsable, c'est celui qui est tenu de faire toutes ses adorations. Il n'a pas d'empêchement. Il n'est pas malade, il n'est pas fou, n'est pas. Donc c'est obligatoire pour lui. Le jugement, il va être applicable sur lui, quel que soit le jugement. Donc si quelqu'un n'a pas compris, il peut se manifester, Inch'Allah Ta'ala, de quelque manière que ce soit. Le mieux, c'est dans le cours, hein. Il aura sa réponse directement. Sinon, il pourra poser la question dans son groupe. Alors, pour ceux qui sont à l'institut, dans cette deuxième classe, pour suivre comment dirais-je, suivre le processus d'enseignement, ceux qui sont là pour suivre le processus d'enseignement, parce que on sait qu'il y a des gens qui sont là juste pour participer au cours, ils veulent rester dans le rappel, ils veulent apprendre. Il y en a d'autres qui veulent participer au tout le processus. Ça veut dire faire les contrôles, suivre les cours en direct, faire les contrôles, répondre aux questions, poser des questions. Et à ceux qui veulent aller au maximum, devenir des prêcheurs ou des prêcheuses ou transmettre. Naam. Nous, à l'Institut, on accepte les trois formes. Il n'y a pas de souci. Mais alors, on vous dit, pour ceux qui veulent suivre le processus entièrement, correctement, il y aura des contrôles. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas la Gestapo. Mais il y aura des contrôles. Et si on n'a pas compris, faut le dire tout de suite pour qu'on puisse répéter, Inch'Allah Ta'ala. Donc, comme il n'y a pas de manifestation, on continue. On continue. Donc, on a expliqué, on est en train d'expliquer toujours hein, la définition du firqa, de la jurisprudence. On a dit qu'elle commençait par, c'est la connaissance des jugements. On a expliqué ce que c'était que la connaissance. On vous a expliqué ce que c'était qu'un jugement. Légiférer. Alors, légiférer. Qu'est-ce que ça veut dire légiférer? Tout simplement, on nous dit ça veut dire que c'est tiré de la législation. Ce sont des jugements qui sont tirés de la législation. Ils ne sont pas tirés du magasin, de l'épicerie, de la dounia, de la vie d'ici-bas, dans des livres d'histoire, dans des... Non, ils sont tirés de la législation. C'est quoi la législation? La législation, c'est le Coran et la Sunna. Ça veut dire que ce sont des jugements qu'on va aller chercher dans le Coran et la Sunna. Taïb? Donc, vous en conviendrez que tout jugement qui ne fait pas partie du Kitab ou Sunna, il est rejeté. Il est rejeté. D'ailleurs, ces jugements, en détail, on les apprend dans le Usul al-Fiqh. C'est ça qu'on apprend dans la matière qui s'appelle Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Alors ça, quand vous serez un petit peu plus perfectionné, on entrera dans le sujet, Inch'Allah ta'ala, on entrera dans le sujet du Usul al-Fiqh. مأخوذة مأخوذة من الشرع فيحترز بها عن الأحكام الحسية مثال الشمس مشرقة والأحكام العقلية تمام العملية alors alors on vous a dit dans la traduction de la définition que al-amaliya, c'est-à-dire le mot qui suit après législation, ça veut dire les œuvres, les actions. Alors on explique ici, on nous dit, ce sont les actions qui se rapportent aux œuvres du cœur, pas que le cœur, on va voir, ça se rapporte à tout. Premièrement, les actions, par exemple, les adorations avec le cœur, comme l'intention, par exemple. Mais les œuvres, ça va être aussi les œuvres de la personne qui sont autres que le cœur, comme avec la langue, la lecture du Coran, ou alors les œuvres avec les membres, comme la prière, Naham, ou les œuvres intérieures et extérieures. Donc on va répéter la définition jusqu'à où on l'a expliqué, pour que vous soyez pas perdus. Définition du fiqh, c'est la connaissance des jugements dans la législation. On a expliqué connaissance, jugement et législation dans les œuvres, les actions. On vient de vous expliquer les œuvres, les actions, c'est quoi? Ce sont les adorations que fait le serviteur. Et on a dit qu'il y avait différentes formes d'adoration. L'adoration, elle pouvait se faire avec le cœur. Vous le savez, ça. On le verra dans le Tawhid, hein, les différentes formes d'adoration dans le cœur. Comme la confiance en Allah, c'est une adoration du cœur. L'espérance, la peur, etc. Ici, on nous dit la niyya, l'intention, elle vient du cœur. Dans les actions du serviteur, les adorations, on a aussi les adorations qui sont les adorations. Excusez-moi, avec la langue, comme la lecture du Coran, les adorations avec les membres, comme par exemple donner la sadaqa. Ou plutôt, c'est mieux de dire les adorations avec les membres, de dire la prière. Parce que la sadaqa, elle entre dans les deux. La sadaqa, ça peut être, c'est considéré, l'aumône, c'est également considéré comme une adoration pécuniaire. Elle est pas, on ne l'a pas mentionné ici, mais c'est juste une faïda au passage, pour vous que vous sachiez que dans les formes d'adoration, il y a aussi les adorations qu'on fait avec l'argent pécuniaire. Quand on va faire sadaqa, des aumônes ou tout autre. طيب. Alors. La connaissance ou la science des jugements légiférés dans les œuvres, les actions, les adorations, tirer muktaseb Allah. Tirer, qu'est-ce que ça veut dire tirer? Qu'est-ce que ça veut dire tirer? Ça signifie ça signifie que le savant, il va tirer les jugements en regardant les différents éléments d'argumentation. Le Coran, la Sunna. On le verra à la suite qu'il n'y a pas que le Coran et la Sunna comme argumentation, comme référence. Naham. On va vous le dire ici, mais il faut savoir que ce n'est pas encore le sujet, ça on le verra plus tard. C'est le niveau un peu au-dessus. Mais c'est prévu, hein. Dans ce même ouvrage, on en parlera. Il faut savoir que les formes d'argumentation dans la législation, on a le Coran, on a la Sunna, on a également l'Ijma. L'Ijma, c'est l'unanimité. Il faut que vous sachiez ça. L'unanimité, c'est considéré comme une preuve, un dalil. Quand il y a l'unanimité dans une question religieuse, ça signifie que c'est une preuve. Et ensuite, on a le qiyas qui est l'analogie. Ne paniquez pas, hein. Ce sont des termes, peut-être ils sont inconnus pour vous, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui se donnent le temps dans l'étude de la science, celui qui veut rester une semaine, un mois, c'est sûr qu'il étudiera, Allahu a'lam, jamais ça. Mais celui qui se donne le temps, il veut vraiment apprendre, vous inquiétez pas, vous apprendrez tout ça. Peut-être c'est nouveau pour vous, mais vous inquiétez pas, c'est pas des choses extraordinaires. Peut-être après un certain niveau universitaire, un niveau assez élevé dans les connaissances, là oui, quand on parle d'analogie, ça fait sortir des. Jusqu'à aujourd'hui, nous on étudie le usul fiqh à un niveau plus élevé et on a de la fumée qui sort des oreilles des fois. Tellement faut se concentrer pour comprendre. On a de la fumée qui sort des oreilles. Mais ça, c'est après, avec le temps. Nous ici, on est en train d'apprendre des petites bases et doucement, doucement, on va, inshallah ta'ala, se perfectionner. Donc c'était juste la faïda pour vous, c'est que sachez dès maintenant que l'argumentation dans la législation, on a le Coran, on a la Sunna, mais il y a des autres choses. Il y a l'ijma, ça veut dire l'unanimité des musulmans, les grands imams, les compagnons. Quand il y a l'unanimité, tu peux dire que. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple comme ça. Si par exemple, il y a l'unanimité des savants pour l'obligation de la salat de la prière, l'unanimité, Coran, Sunna, et en plus, il y a l'unanimité. Il n'y a personne qui vient et il nous dit, ouais, la prière, c'est pas obligatoire. Il y a un tel qui dit que c'est pas obligatoire. Bah, tenez, on va prendre le foulard. Parce que la prière, Allahu a'lam, j'ai pas entendu qu'il y a des gens qui disent que c'est pas obligatoire, à moins que je connais pas tout le monde, hein. Je connais pas tous les fous sur terre, je connais pas tous les fous, fous pas dans le sens malade, hein. Vous avez compris, hein, tous les fous, on s'est compris. Mais par contre, le foulard, c'est sûr, il y a des gens hein, qui viennent et qui disent non, le hijab c'est pas obligatoire. Il y a l'unanimité sur le hijab, il y a le Coran. Il y a la sunna et il y a l'unanimité. Donc, quand il y a l'unanimité des musulmans, c'est pas monsieur tout le monde, hein. C'est l'unanimité des savants et des salafs. Les grands savants, les salafs, ceux qui sont reconnus, il y a l'unanimité. Donc, si quelqu'un il vient et il nous dit non, c'est pas obligatoire, on le calcule même pas. Il y a ijma, il y a l'unanimité. Subhanallah. Wallahu al-musta'an. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va se contenter de cela pour aujourd'hui, pour pas vous en donner trop, 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 sinon, après, on se mélange les pinceaux. Alors, déjà, si vous assimilez ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas terminé l'explication de la définition. Hein. On n'a pas terminé l'explication de la définition. Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, on avance doucement. Vous savez qu'à l'Institut, il faut savoir, on a une méthodologie. Peut-être que c'est vrai, on met du temps à faire les livres. Ça, c'est une vérité. Parce qu'il y a des livres, on pourrait les faire en 1 mois, 2 mois, c'est réglé. Hein. En 1 mois, 2 mois, je vous dis franchement, Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, 3 semaines, c'est réglé. Les trois fondements, 1 mois, même pas, c'est réglé. Mais nous, notre méthodologie à l'Institut, c'est qu'on prend le temps, on détaille, on explique, les élèves posent des questions, on fait des contrôles. Déjà, on a un cours par semaine pour chaque matière. Enfin, pas pour vous, hein. Pas pour vous. Mais donc voilà. Doucement, mais sûrement. Parce que sinon, on enlève les questions. On enlève les questions-réponses. On rentre pas dans le détail. On fonce, ça veut dire on va parler plus vite. Et là, en 1 mois, on a fini le livre. Mais est-ce que tous les élèves, quand on va faire un contrôle, ils ont compris de quoi on parle? C'est ça la différence. Vaut mieux mettre du temps. Vaut mieux mettre du temps. Franchement, vaut mieux mettre du temps. C'est pas grave. Mais au moins, les élèves, on détaille, on explique. Vous savez, dans les instituts, c'est pas péjoratif, c'est pas péjoratif, hein. Envers eux, dans les instituts ou même à l'université de Médine, même chez Cheikh Morbel, etc., il prend le livre, il t'explique, et voilà, t'as compris, t'as compris, t'as pas compris, tu peux demander toujours, hein, voilà, j'ai pas compris ça, on va te réexpliquer, mais. Ils vont pas te faire un détail de une demi-heure sur une définition ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que le livre, il est terminé rapide. C'est pas péjoratif, hein, ça s'appelle l'enseignement. L'enseignement, c'est comme ça. Vous allez à l'université de Médine, je vous assure que à la vitesse le docteur où il explique, des fois tu comprends rien. Des fois, tu comprends rien. La vitesse, ça va vite. Donc, nous, on a. C'est pas péjoratif, les enseignements académiques, c'est comme ça. Bon, il y a des profs, ils vont plus doucement, ils expliquent mieux, etc. On se sent mieux. Mais il y en a, ça va vite, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, nous, on a cette méthodologie, on prend notre temps. On explique, celui qui veut poser des questions, il peut, pendant le cours, après le cours, et voilà. On veut que les élèves comprennent. Nous, notre but, c'est que les élèves comprennent. C'est pas, ça sert à quoi? Que les élèves ne comprennent pas. Donc, Inch'Allah ta'ala, on se retrouve demain, Inch'Allah ta'ala, pour cette classe, hein, on se retrouve demain pour un nouveau cours, Inch'Allah ta'ala. Demain, je pense, Allahu a'lam, que ça doit être le tawhid. Subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.